a long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
C'est vrai qu'elle est polyglotte, mais elle ne parle pas la langue de l'indifférence. Peut-être parce qu'elle vient de la Première République noire, qu'elle a commencé sa vie comme réfugiée et qu'elle est aujourd'hui la première dans pas mal de domaines. Vous aurez peut-être remarqué une sorte de fil d'Ariane entre Haïti et en sol majeur. Très heureux de pouvoir accueillir Michaël Jean, qui aura donc été la première femme noire gouverneure générale du Canada et aujourd'hui secrétaire générale de la francophonie, c'est-à-dire la première femme et la première personnalité non-africaine à diriger cette institution. Invitation en sol majeur lancée à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie le 20 mars prochain, pas si loin de la Journée de la femme, et qui va nous permettre de dessiner le trajet exceptionnel d'une petite fille haïtienne qui aura perdu, conquis, reconstruit. De Port-au-Prince à Ottawa, en passant par la grande porte de la francophonie jusqu'à celle du non-retour. Bonjour Michaël Jean.
Bonjour Yasmine.
Je suis intimidée,
pourquoi,
voire émue, de vous recevoir en sol majeur, car la question du sol majeur, c'est toute votre vie. Qu'est-ce que ça vous évoque spontanément quand je vous dis en sol majeur?
Déjà un son, sol majeur. Et une histoire peut-être, celle de mon rapport à la musique. Vous savez, petite, lorsque ma mère se retrouve seule, avec deux enfants sur les bras, exilée, nous vivons dans une toute petite pièce, dans un sous-sol d'un immeuble à Montréal. Et un jour, elle se dit, il faudrait de la musique. Alors, elle va chez un marchand de piano et elle demande au marchand, bon voilà, je suis intéressée à ce piano, mais je ne pourrais pas vous le payer autrement que par mensualité. Est-ce que vous me feriez crédit? Et il lui dit, bon, mais vous avez combien, quoi? Ben, elle dit, ben, j'aurais $50. Et le piano en coûte à peu près 600. Et il lui dit, mais ça va pas, madame, quand même, vous rendez compte, $50 d'un compte sur ce piano? Et il dit, mais je vous paierai par mois. Et le type va et vient, va voir d'autres clients. Et ma mère est toujours là, qui attend avec ses deux filles. Nous étions petites, ma sœur et moi. Et elle insiste chaque fois, elle revient vers lui. Mais vous êtes sûr, ce piano, franchement, pour mes enfants, c'est très très important. Il nous faut de la musique, monsieur. Ce que nous traversons est très dur, il nous faut de la musique. Alors il va voir son patron et lui dit, bon écoutez, il y a cette dame là qui ne me lâchera pas, il faut. Et il revient finalement, il lui dit, bon d'accord, ça va, un compte, $50. Et puis combien par mois? Elle dit, ben, $20, je peux pas plus. Donc, elle aura gain de cause, et lorsqu'ils viendront livrer ce piano et qu'ils verront cette toute petite pièce dans un sous-sol d'un immeuble, et là, les déménageurs, mais vraiment, se prennent la tête, ils disent, mais c'est pas possible, il n'y a pas de place. Et ma mère dit, non, vous allez voir, j'en ferai de la place, mais il nous faut de la musique. Alors, ce sol majeur, c'est ça pour moi. C'est cette maman qui comprend, alors qu'elle vit une épreuve terrible, que nous devons nous reconstruire, nous n'avons plus de repères, et qui se dit, bah, la musique, ça compte quand même.
Jay.
J comme Jardin d'Éden.
Alors le Jardin d'Éden est lié bien sûr à la Genèse dans nos esprits, mais quand vous entendez Jardin d'Éden, qu'est-ce que vous entendez?
D'abord je retiens Éden, c'est le prénom que j'ai perdu, parce que quand il a fallu fuir la dictature, la répression, nous étions pourchassés comme quantité d'autres sous le régime de Papadoc. Mon père a été arrêté, il a été torturé. Il a eu de la chance, il a été relâché. Et lorsqu'on le jette, mais vraiment comme une poupée de chiffon ensanglantée, sur le seuil de notre porte, ma mère comprend très vite qu'au fait, il faudra demander asile quelque part. Et ça a été la nuit peut-être la plus longue de leur vie, parce qu'ils savaient très bien qu'ils étaient recherchés, il fallait arriver au plus vite devant la barrière d'une ambassade, n'importe laquelle, et en espérant qu'on ouvre le portail et qu'ils puissent demander asile. finalement, ils réussissent. Hein, l'ambassade américaine les prend. Et on dit à mon père, bon, nous allons, monsieur le directeur, parce qu'il dirigeait un collège à Port-au-Prince, le collège Saint-Pierre, nous vous ferons partir, mais pas la femme et les enfants. Alors, mon père partira, on ne saura pas tout de suite vers où, mais nous, nous restons cachés pendant des mois. Mais mon père, finalement, est envoyé vers le Québec, à un moment où, pleine révolution tranquille, on cherche des professeurs francophones laïcs, parce qu'avant, le système scolaire était complètement tenu par l'Église, et il pourra nous envoyer très vite ce qu'il faut pour des papiers. Mm-hmm. Et bien sûr, pour fuir, il faut surtout qu'on ne soit pas identifiable et qu'on ne soit pas reconnu. Donc il faut s'exercer à répondre à d'autres noms. Et donc mon nom, c'était Marie-Michaëlle Eden. Et je devais m'exercer à répondre à Michaël. Et on allait enlever Eden.
C'est-à-dire pendant ce temps de fuite et de clandestinité en Haïti.
Bien sûr. C'est-à-dire que lorsque l'on arrive à l'aéroport et que vient ce moment de partir, il y a cet interrogatoire. Devant un makout, ils avaient coutume de porter des verres fumés, de sorte qu'on ne voit pas leurs yeux. Ils défilent les noms sur les listes de personnes qui sont recherchées. Et bien sûr, il fallait que nous sachions, nous enfants, répondre à un prénom qui était celui qui apparaissait sur les papiers.
Donc vous avez appris à dissimuler votre identité toute petite.
Oui, c'est pourquoi aujourd'hui encore et depuis longtemps, quand je vois le traitement que l'on fait à ces personnes forcées de partir, de fuir, de trouver asile quelque part, et qu'on leur reproche parfois des papiers où, oui, les informations ont été... où il a fallu, pour partir, se donner des papiers d'identité, nous mettant à l'abri du pire, de l'arrestation et tout. J'essaie toujours d'expliquer ce qu'il y a derrière.
Quelle est, dans votre tête de 10 ans et demi, la toute dernière image que vous gardez de cet Haïti, Michaël Jean?
Je pense que, d'une part, à 10 ans et demi, on sait très bien d'où l'on vient. La dernière image, c'est celle du départ. Donc, sortir de cette torpeur qui était la nôtre, la peur constamment d'être arrêté, et être à l'aéroport, et voir des amis qui sont là, mais qui se tiennent à distance, parce que si jamais nous étions pris, il nous fallait qu'ils évitent d'être associés à nous. Et dans ma tête d'enfant, je me suis fait la réflexion suivante, je n'oublie pas, je me suis dit, ça doit être un peu ça, mourir, quoi. C'est-à-dire, quand on meurt, on peut être encore là quelque part, conscient de ce qui arrive. On peut encore voir les gens qui sont là et que l'on quitte. Mais il n'est plus possible pour nous de communiquer. Et j'ai eu l'impression de vivre mes funérailles, au fait. Ouais.
35 ans plus tard, dans ce Canada tout blanc, tout vert, qui est devenu votre patrie d'adoption, la journaliste que vous-même vous êtes devenue, Michaëlle Jean, apparaît un jour sur le petit écran de Radio-Canada et présente le téléjournal. On est en 2001.
Le téléjournal avec Michaëlle Jean.
Ce soir au téléjournal, journée d'élection, Gérald Tremblay et son équipe chassent Pierre Bourque de la nouvelle mégaville de Montréal. Ailleurs, pas de surprise, Jean-Paul Lallier gagne à Québec, Jacques-Olivier à Longueuil et Gilles Vaillancourt est réélu à Laval. L'ouragan Michel frappe la côte de Cuba avec des vents de 220 km à l'heure, 500 000 d'évacués.
Michaëlle Jean, pour Un seul majeur. Alors, vous avez beau dire, parce que je crois l'avoir lu, que vous êtes devenue journaliste par hasard. Je crois que le hasard, il a quand même bon dos quand on regarde notamment les titres de vos documentaires. La passionnaria ou le combat d'une immigrante au Québec pour l'intégration en français des immigrés, ça c'était en 99. Ou encore Les grandes familles et le pouvoir de l'argent en Haïti, ça c'est en 94. On sait et on sent, en ayant écouté ses premiers pas pour quitter une terre natale, que votre fibre journalistique n'est pas née dans une école de journalisme.
Non, pas du tout, pas du tout. En fait, j'arrive à la télévision, mais par le documentaire, par un travail fait avec une cinéaste canadienne d'origine égyptienne que je vais suivre en Haïti lors des premières élections libres. Et pour moi, il était très très important de vivre ce moment.
C'est-à-dire que le fil avec Haïti n'était pas du tout coupé.
Le fil, non. Haïti reste en vous et le pays que vous quittez demeure en vous toujours. Au fait, vous savez, j'aime beaucoup parler de mes racines, mais un rhizome. C'est-à-dire qu'on reprend racine ailleurs, mais moi je préfère penser qu'on étend ses rhizomes ailleurs. Donc, il se trouve que ces premières élections se sont très très mal passées. Elles se sont soldées par un massacre. Les militaires ne voulaient pas lâcher prise. Et j'ai eu l'occasion, pour ce film, de suivre des journalistes haïtiens, mais partant avec rien du tout. Un petit appareil pour enregistrer, un crayon, un carnet, et allant à pied rejoindre des populations très très isolées pour non seulement faire un travail, oui, de journaliste, mais aussi rejoindre ces populations et leur dire voilà, pour la première fois vous voterez, voilà ce que cela veut dire. Les instruire de ce droit fondamental dont ils avaient été dépossédés. Alors je comprends d'emblée ce qu'est ce métier-là. C'est-à-dire que c'est un métier que je ne pouvais concevoir autrement que comme un acte citoyen. Vraiment.
C'est votre métier d'haïtienne, en l'occurrence, qui parle.
C'est aussi une urgence de dire. Et en même temps, nous rentrons au Canada, toute l'équipe, parce que nous avons été attaqués par des militaires. Nous avons avec nous, dans notre équipe, un blessé et tout. Donc, vous vous imaginez, vous rentrez, c'est la nouvelle du jour au Canada. Et moi, je regarde tout ce monde journalistique. Et il y a un moment où je parle, mais je ne parle pas comme une journaliste. Je parle comme je parle.
Eden parle.
Oui, dire et sans que ce ne soit jamais gratuit, voyez. Et Radio-Canada s'intéresse à moi et dit, mais c'est qui cette fille? Mais j'arrive à la télévision pas parce que j'ai envie d'une carrière en télévision. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire là, au fait? Et je connais cette télévision qui est toute blanche, qui ne représente pas du tout le Québec cosmopolite. Et je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire là. Donc voilà, donc j'arrive militante, oui.
Ce qu'on n'apprend pas non plus, éventuellement, dans les écoles de journalisme, c'est l'histoire. Mmh. Et votre histoire haïtienne, vous la connaissez sur le bout des doigts, je crois, Michaël Jean. Ça. Vous avez grandi un peu avec Toussaint Louverture, grand personnage né esclave, je le rappelle, en Haïti, vers 1743, et qui devient chef de la révolution haïtienne de 1791 à 1802. Magie du théâtre, sa voix porte encore sur RFI.
Et Saline. C'est encore et partout la tempête sur l'île. Il nous faut unir les classes et les couleurs.
Tout ça.
Mêler les blancs aux nègres.
Combien sont-ils les blancs qui accepteraient de se mêler aux nègres?
Je vais demander aux nègres d'oublier ce qu'ils ont subi au cours de l'histoire.
C'est peut-être aux autres d'oublier ce qu'ils ont voulu être pour nous au cours de l'histoire. Redevenir hommes. Combien sont-ils qui accepteraient de se mêler à nous, sinon en qualité de maître?
Et pourtant, il le faut. Il le faut pour l'équilibre et la stabilité politique. Il le faut pour le destin même de Saint-Domingue. Il faut qu'affranchis d'hier et affranchis d'aujourd'hui se serrent les coudes. Que nègres et mulâtres se donnent la main pour bâtir le pays. Que toutes les nuances de coloration érigées en barrières se fondent pour qu'enfin du gouffre où ils se traînent surgisse l'homme.
Paix comme pays premier.
Sidiki Bakaba incarnant Toussaint Louverture dans Île de Tempête de ce cher Bernard Dadier. Au fond, et c'est d'ailleurs un peu la question que j'aurais envie de poser à chaque Haïtien que je croise, qu'est-ce que vous devez à Toussaint Louverture, vous, Michaël Jean?
Je pense que nous devons à ces hommes et à ces femmes qui ont résisté et qui ont voulu faire reculer l'impossible, imaginez, pour ces nègres des plantations, ces noirs de Saint-Domingue, de la colonie française, oser défier même ce système colonial basé sur le déni d'humanité, sur une économie aussi qui est celle des empires coloniaux européens, et se dire, nous pourrions vaincre cela. Et recevoir ces mots qui parvenaient du jeu de paume, n'est-ce pas, à Versailles, parce que les nouvelles n'arrivaient pas aussi vite qu'aujourd'hui, mais elles sont parvenues quand même jusqu'aux plantations, sur ces mots très forts, liberté, égalité, fraternité. Et je dirais que ces hommes et ces femmes l'ont ressenti dans leur chair. Ils se sont dit, tiens, liberté, égalité, fraternité, ces mots sont pour nous. C'est-à-dire que nous, nègres, n'étions pas invités au banquet révolutionnaire, ni à manger de ce pain-là, mais nous reconnaissions la force de ces mots dans ce que nous vivions. Et dans cet extrait que l'on vient d'entendre, vous entendez prononcer le mot « nègre » et qu'on l'associe à « homme ». Alors, dans l'esprit subversif des révolutionnaires haïtiens, une fois l'affranchissement par eux-mêmes réalisé, la proclamation de la République d'Haïti, Napoléon Bonaparte vaincu, parce qu'il tentera de reprendre et de rétablir Saint-Domingue et de rétablir l'esclavage, en envoyant des Polonais, il venait de conquérir la Pologne pour faire ce sale travail. Et voilà que ces Polonais décident d'une mutinerie et vont se joindre aux révolutionnaires haïtiens.
Ça, c'est un fait historique peu connu.
Peu connu, et c'est extraordinaire. Alors, le côté subversif autour des mots, c'était de se dire, vous nous avez, dans le mépris, appelé nègres. Eh bien, ce mot, nous allons injecter de la noblesse. Et désormais, nègre voudra dire homme. Donc le plus grand compliment que l'on puisse vous faire, si vous êtes de race blanche en Haïti, c'est qu'on vous dise, tu es un bon nègre. Où sont bons nègres? Où c'est gros nègre? Et en Haïti, on fait ça tout le temps. Regardez tous les noms haïtiens. Nous nous appelons Voltaire, nous nous appelons Rousseau. Nous avons, dans la Révolution, puisqu'on nous avait dépossédés de nos noms, de nos origines, de nos histoires, dans l'espace plantationnaire, quand vient la Révolution, nous nous renommons. Et la revanche est de prendre les plus grands noms de l'Occident, et des Lumières même, et de nous les approprier. Comme la langue française, on fait la même chose.
La musique, elle existe dans votre vie, Mickaël Jean, je le sais. Vous êtes capable même de danser, de chanter, peut-être la preuve en seconde partie tout à l'heure. Mais vous êtes aussi capable de graviter avec Strange Fruit, version Nina Simone. On l'écoute.
Southern trees barren strange fruit, blood on the leaves, and blood at the roots. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South. Them big bulging eyes and the twisted mouth. Scent of magnolia, clean and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the sun.
Les arbres du Sud portent un fruit étrange. Nina Simone, impériale sur l'échafaud de cette histoire qui traverse l'ensole majeur de Mickaël Jean, qu'on retrouve dans 3 minutes.
A long way from home.
En sol majeur.
Mickaël Mickaël Jean est une dame de cœur. La partie de cartes se joue entre Port-au-Prince, Ottawa, Paris et la francophonie. C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de ce pays, la francophonie, qui comprend 80 États membres pour 274 millions de francophones dans le monde. Et non pas encore, car il nous importait de retracer les premiers pas déterminants de cette petite fille née au pays des oiseaux mal finis, Haïti. Petite fille qui aura donc enterré son vrai prénom, Eden, pour survivre aux barbelés de l'histoire. Eden, devenue Mickaël, ou Madame Jean, hein, quand on sollicite un rendez-vous avec la secrétaire générale de l'OIF, est devenue donc la gardienne de certaines valeurs qui n'auraient pas déplu à Césaire. Allez, parce que je sais que vous n'avez pas vraiment le temps dans la vie d'aller au cinéma, je vous emmène dans une salle obscure pour une minute en sol majeur de I Am Not Your Negro, film de Raoul Peck, qui refait le parcours de James Baldwin à travers trois figures du mouvement des droits civiques, Martin Luther King, Medgar Evers et Malcolm X, tout en faisant le tour de la question noire aux États-Unis. Extrait. Richard, can't get him up. Lazy
Richard, can't get him up. Richard. À cette époque, aucun acteur ressemblant à mon père n'avait encore fait son apparition sur les écrans de cinéma. Non, ce n'est pas entièrement vrai. Il y avait par exemple Stepin Fetchit, Willie Best et Manton Marlon, que je détestais tous, à tort ou à raison. Il me semblait qu'ils mentaient à propos du monde que je connaissais, qu'ils l'avilissaient, et assurément que je ne connaissais personne comme eux, autant que je sache. Mais peut-être que leur terreur comique, leurs yeux exorbités, disaient vrai sur une terreur qui, j'espérais, ne me concernerait jamais. Par contre, je n'avais aucun doute sur la réalité de la terreur qui habitait le concierge noir dans la ville gronde. Le rôle était tenu par Clinton Rosemond, un acteur noir qui ressemblait un peu à mon père. Il est terrifié car une jeune blanche dans cette petite ville du sud a été violée puis tuée. Et son corps a été découvert dans l'immeuble qu'il garde.
Mickaël Jean, secrétaire général de la francophonie, dans le fauteuil d'un sol majeur, avec un pop-corn. Et une minute de cinéma dans les oreilles. I am not your Negro, avec en voix off les mots de Baldwin, servis par Joe Starr dans la version française. Alors ce film, vous avez fait quel effet ?
Très très heureuse que Raoul Peck, qui est cinéaste haïtien, et réaliser ce film. Ce film est un chef-d'œuvre parce qu'il rassemble des archives rares. Cet homme, je n'arrive pas à le réduire uniquement à l'écriture, mais c'est un homme qui pense la condition afro-américaine. Et Peck vous le remet en scène, mais comme s'il était là. Tout ce film est tissé sur le fil de sa parole. Et c'est un moment extraordinaire. Dans ce film, il y a toujours cette réflexion autour de comment nous sommes parfois réduits par le regard que l'autre pose sur nous. Comment il veut nous enfermer dans sa difficulté parfois aussi à être en présence de l'altérité, donc de l'autre. Et il nous parle de ce racisme américain et d'une condition que nous connaissons tous parce que naître noir est un combat.
Et comment ne pas tomber, je dirais même, dans le racisme ? Baldwin, qui a livré de nombreux entretiens, a raconté ses nombreuses hontes. Mm-hmm. La honte du jazz, la honte du blues, la honte du père, la honte de tous ces moments passés dans les églises avec ses co-religionnaires. Et il avoue avoir frôlé le racisme anti-blanc. On parle des années 60, bien sûr. Est-ce que la couleur de peau, vous diriez, a été un moteur chez vous, Mickaël Jean, qui, je le rappelle, avait été la première femme noire gouverneure générale du Canada ?
En fait, je reconnais aussi que lorsque je deviens gouverneur général et qu'on entend chef du Canada, que je suis, oui, une femme noire qui accède à cette haute fonction et qui va ouvrir la voie aussi pour d'autres. Vous savez, bon, nous avons depuis tout à l'heure un ton assez grave dans notre discussion.
C'est vrai, oui.
Mais ce dont nous parlons est essentiel. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que parfois il nous faut revenir aussi sur une histoire ? C'est savoir d'où nous venons, d'où nous partons. Et combien certaines réalités de l'histoire ont pu aussi polluer et empoisonner la possibilité pour nous de nous rencontrer. Mais c'est sans colère, au fait. Ce n'est pas non plus une volonté de revanche, pas du tout. Parce que, dès lors, ce qu'il nous reste, c'est la responsabilité d'inventer autre chose. Et je dirais que la francophonie est née de cela aussi. Hein. La francophonie est née de cet idéal-là. C'est-à-dire que le système colonial s'écroule, arrivent ces nouveaux pays indépendants qui doivent se remettre de cette blessure. Et l'idée de francophonie, c'est un idéal qui repose sur un humanisme, la poursuite d'un humanisme intégral. Et ce désir-là, ce mot-là, cette réflexion vient d'hommes du Sud qui se disent, bon voilà, et puis on va faire ça avec une chose, on va le faire avec un trait d'union qui est la langue française.
De combien de malheurs pour vous persécuter vous ai-je pour un mot sacrifier mes pleurs.
Air.
Vous regrettez un père, hélas. Faible douleur.
Comme.
Et moi, ce souvenir me fait frémir encore.
Racine.
On voulait m'arracher de tout ce que j'adore.
Ce petit gaillard, toujours tâtonnant ses gouvernantes, sans dessus-dessous.
Ourablais.
Sans devant-derrière, un ribouriquet, et déjà commencé à exercer sa braguette, laquelle chaque jour, ses gouvernantes, ornées de beaux bouquets, de beaux rubans, de belles fleurs, de beaux flocards, et passaient leur temps à la faire revenir entre leurs mains.
On dirait qu'on a préparé l'émission ensemble, hein, Michael Jean. Alors, est-ce que vous êtes plus Bérénice ou plus Gargantois?
Bérénice, certainement. Parce qu'il y a ce désir de transcender, ce désir d'être. C'est à cette façon d'interpeller. Je me reconnais dans cela.
Est-ce que ça vous dirait de réentendre les pères fondateurs de la francophonie? J'ai nommé Habib Bourguiba, le Tunisien, Léopold Sédar Senghor, le Sénégalais, et Norodom Sihanouk, le Cambodgien.
Maintenant, le français reprend du poil de la bête parce que chasser le naturel, il revient au galop.
Il s'agit, nous, à l'exemple de la France, de nous enraciner dans nos valeurs de civilisation, dans ce que nous appelons l'arabité, la négritude, la vietnamitude.
Il serait utile, aussi bien pour nous que pour la France, que pour l'Afrique d'une façon générale, qu'un lien spécial, particulier, nous unisse à travers la langue française.
La France étant présente et de plus en plus présente au Cambodge, c'est une garantie d'indépendance pour mon pays.
Il s'agit de nous enraciner dans nos valeurs culturelles pour nous ouvrir aux valeurs françaises et surtout à l'esprit de méthode et d'organisation qui est la marque de l'Europe, en général singulièrement de la France.
Cela pourrait être comme dans le Commonwealth, une famille, un club dont les membres peuvent s'entraider et qui peut faciliter énormément leur marche vers le développement, vers le progrès, vers la prospérité.
C'est cela la francophonie.
Une archivina pour vous servir. Bourguiba, Senghor, Sihanouk, il ne manque plus que Hamani Diori du Niger dans votre ensemble majeur. Michael Jean, est-ce que vous vous sentez être une fille provocatrice de ses pères fondateurs?
Je reconnais l'idéal qu'ils poursuivent. Ce qui revient, c'est solidarité, c'est faire ensemble. C'est-à-dire parce que vous avez ces hommes qui sont à la tête de ces nouvelles républiques, qui entrent dans une indépendance, donc qui doivent se construire, se définir, et qui savent qu'ils n'y arriveront pas seuls, et qui se disent, mais alors, nous devons faire ensemble. Et ce que nous avons d'extraordinaire pour se faire ensemble, c'est vraiment ce levier extraordinaire, qui est une langue en partage. Et une langue que nous allons aussi féconder de toutes nos autres langues. Et dès lors, l'on voit très bien combien cette langue française n'est plus que française. Elle appartient aussi à des hommes, des femmes, des populations sur les 5 continents.
Vous êtes, Michael Jean, la première personnalité non africaine à diriger cette institution de la francophonie, le grand perdant étant le Mauricien Jean-Claude de Lestrac et peut-être l'Afrique elle-même. Si l'on en croit le journal Le Monde du 5 décembre 2014, c'est vieux déjà, qui titrait « L'Afrique a perdu la direction de la seule direction multilatérale qu'elle présidait ». 3 ans après, est-ce que vous pensez pouvoir dire que votre nomination est un plus aussi pour l'Afrique?
Je vais vous dire une chose. Premièrement, cette façon de penser ce qui s'est passé est totalement à côté de la réalité. Je ne serais pas aujourd'hui secrétaire général de la francophonie si je n'avais pas été appuyée d'abord et fortement par les chefs d'État africains, qui ont été très outrés par ce que certains Européens disaient, qu'il y a une règle non écrite qui voudrait que ce soit un Africain qui soit à la tête de cette organisation. Mmh. Et les chefs d'État africains qui m'en ont parlé, parce qu'ils me connaissaient bien, je ne suis pas arrivée à leurs yeux en parfaite inconnue. Mais ce qui les a agacés, c'était le déni d'une histoire. Parce qu'ils me disaient, mais pourquoi ne seriez-vous pas légitime ? Vous êtes une afro-descendante. Vous êtes de cette africanité globale.
Mais une femme du Nord.
Je suis du Sud et du Nord. Pour l'Afrique, Haïti existe. Ou, comme l'a dit si bien Aimé Césaire, la négritude s'est mise debout pour la première fois. Donc, ces chefs d'État africains me disent clairement, et bien avant le vote, notre candidate, c'est vous. Parce que justement, nous aimons ce que vous êtes. Vous êtes du Sud et du Nord. Vous portez ces deux sensibilités. Et en plus, vous êtes aussi de cette africanité globale. Donc, quand on dit cela, l'Afrique a perdu cette organisation. Non, l'Afrique ne se sent absolument pas perdante. L'Afrique m'a aussi choisie.
Beaucoup d'émotions, en tout cas autour de ce mot de francophonie. Cette francophonie qui a une histoire liée aussi à une certaine France, avec ce passé colonial qui a marqué au fer rouge votre terre natale, Michaël Jean. Je me suis demandé s'il avait fallu pour vous faire une sorte de chemin de réconciliation en vous-même, vous qui êtes si attaché justement à l'histoire, pour accepter ce poste qui est symboliquement fort.
Alors, j'essaie de comprendre ce que vous me dites.
Je pense à l'Algérie, par exemple, l'un des pays les plus francophones oui. du continent, qui n'est toujours pas membre de l'OIF pour oui. des raisons évidentes de distance par rapport à ce qu'on appelle l'ancien colonisateur.
Moi, je souhaite que l'Algérie formalise vraiment sa présence en francophonie, parce que l'Algérie est présente en francophonie. L'Algérie n'est pas membre de l'Organisation internationale de la francophonie, mais est là à tous les sommets, invitée et parlant aussi de sa voix. Je trouve qu'après tout ce que nous sommes dit sur l'idéal porté par les pères fondateurs de la francophonie, que l'on comprenne bien ce que nous sommes. Nous ne sommes pas un avatar du colonialisme. Nous ne sommes pas dans un néocolonialisme. Nous ne sommes pas le bras armé caché de la politique étrangère française. Nous ne sommes pas ça du tout. Nous sommes sur un idéal d'une très grande modernité et dont le monde a besoin encore aujourd'hui.
Pourquoi l'Algérie résiste ?
L'Algérie résiste parce qu'il y a encore une histoire douloureuse entre l'Algérie et la France. Pas l'Algérie en francophonie, parce que l'Algérie est un partenaire très fort en francophonie. Vous savez, sur l'accord de paix, par exemple, que l'on souhaite voir vraiment aboutir au Mali, l'Algérie est vraiment l'État médiateur. L'Algérie est très présent dans le Sahel, mais il reste encore cette blessure. Et ce n'est pas moi qui vais la régler, ce n'est pas la francophonie qui va la régler. C'est une blessure qu'une génération aussi d'Algériens a surmontée face à la France.
À nous de vous offrir quelque chose, Michaël Jean, c'est un moment proustien en créole.
Selgen consolation, lem te fin monte couché, c'était pour maman ta vin beau moi. Lem ta vin nan cabane moi. Mais ti bonsoir ça, te dire si tellement ti castan, li te viré descendre si vite. Maman te tande li a monté, t'a passé nan couloir. Doub potio, ak ti bri bien léger robe jardin en mousseline blélia, nan li te pon de ti cordon en paille tressé. T'es pour moi un moment grand douleur.
Oh.
Oh, comme l'origine du monde.
Car cette langue créole haïtienne est l'origine de votre grand tout, Michaël Jean. Mmh. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre Proust en créole, servi par Guy Régis Junior ?
Voilà ce qui est magnifique, c'est de se dire que d'une langue, on peut passer à une autre, et le sens peut voyager ainsi d'une langue à l'autre. Lorsque je rentre en Haïti après tant d'années d'exil, j'avais quitté Haïti en 67 et j'y reviens dans les années 80 à la chute du régime Duvalier et je vois cette langue écrite sur tous les murs. Et je passe du temps aussi dans des textes de Franck Etienne à Badjoumélézo, écrit en créole, et puis me dit « Ouh, gâte Jean langue ça belle, gâte Jean le puissant, gâte Salkadi, gâte Foisli. »
Vous me donnez mon premier cours de créole haïtien quand vous voulez.
Voyez comme cette langue est belle, voyez sa force. cette langue qui a été une langue de résistance, attendez. Alors, vous savez, dans le système plantationnaire, on ne mettait jamais ensemble des esclaves issus d'une même langue, d'une même culture. Parce qu'on savait très bien que dès lors qu'ils avaient une langue commune, il y avait un risque de révolte. Alors la résistance dans ce système plantationnaire, on se donne une langue où l'on prend au maître, quand il est espagnol, ses mots espagnols, quand il est français, ses mots français, quand il est anglais, ses mots anglais, quand il est hollandais, ses mots hollandais. Et l'on construit une langue aussi qui vient s'adosser à celle parlée par les premiers peuples de ces territoires. On fait une espèce de synthèse incroyable parce qu'il y a urgence de communiquer. Mm-hmm. Et c'est une langue formidable aujourd'hui en Haïti. Et c'est un parti pris aussi pour la francophonie.
Alors justement,
c'est d'enseigner aussi les langues
parce
nationales.
Parce que je me disais, vous qui faites flotter ce beau drapeau de la langue française, Mickaël Jean, c'est l'heure de ma petite question grinçante. En quoi la langue française serait mieux habilitée à défendre l'égalité homme-femme que le créole haïtien?
Non, on le fait dans le bambara. On le fait dans toutes ces langues. Nous, ce que nous défendons dans la francophonie, c'est le multilinguisme. C'est-à-dire que même dans nos actions en matière d'éducation, nous avons des programmes aussi pour l'enseignement des langues nationales. Parce que nous disons que l'enfant, pour mieux apprendre, doit d'abord être instruit au plus jeune âge dans sa langue maternelle. Et il va d'autant mieux s'approprier une autre langue qui est le français et plusieurs autres langues. Donc pour nous, soigner aussi les langues nationales, les reconnaître, nous assurer aussi qu'elles puissent être enseignées et qu'elles puissent aussi couvrir tous les domaines des savoirs. Mmh. En créole aujourd'hui en Haïti, on enseigne également la philosophie, on enseigne aussi les mathématiques, dans ces deux langues, le français et le créole, ensemble.
Est-ce que vous voulez bien me donner mon premier cours de créole, Mickaël Jean? Ça veut dire quoi? Simidlo, Dambala, Wedo?
Alors, Simidlo, Yaye. Dambala wedlo yaye. Simbidlo yaye. Dambala wedlo yaye. Simbi upoko kone mwa. Simbi upoko kone mwa yaye. Dambala wedlo yaye. C'est un chant vaudou, dans le vaudou haïtien, mais que l'on retrouve aussi dans le vaudou du Bénin, donc de l'ancien royaume du Dahomey et du Togo. Simbi, c'est la déesse médiatrice. Elle est sirène, elle est des eaux et elle est de la terre également. Et c'est elle qui va faire la médiation. Et on retrouve ce même personnage même jusque chez les Inuits. Donc le vaudou pour nous, ma grand-mère disait toujours, tu sais, mieux vaut avoir deux fers au feu.
J'ai entendu ce proverbe chez René de Pestre.
Chez René, n'est-ce pas? Donc puisque c'est sa maman. Le dimanche matin, tu vas à l'église. Oui. Mais quand tu entends les tambours le dimanche soir, tu y vas aussi. Et tu vas prier à la manière des ancêtres. Parce qu'on ne sait jamais. Mieux avoir toujours, c'est de faire au feu. Parce que, vous rendez compte, ce syncrétisme est extraordinaire. Et au décès de ma mère, j'ai fait exactement ce qu'elle avait voulu. J'ai ramené ses cendres en Haïti où elle n'est jamais retournée. Et une partie de ses cendres, nous les avons placées à Jacmel, dans le caveau familial. Et là, les prières se sont faites dans le rituel catholique. Et ensuite, l'autre partie de ces cendres, nous les avons amenées en mer, sous un rituel à la manière des ancêtres, comme elle le souhaitait, les tambours, les chants.
Ce que votre mère souhaitait retrouver dans le courant des eaux, voilà. Le chemin des ancêtres.
C'est exactement cela. Et vous retrouverez aussi ce même rituel au Bénin, ce même rituel au Brésil, ce même rituel en Haïti. Ça aussi, ça a été dans la spiritualité une façon de rester vivant et de traverser cette épreuve terrible qui a duré des siècles et qui a été vraiment de déni total d'humanité.
Et puisque la mère est aussi affective pour vous que traumatique, en sol majeur est allée à la mer. Elle est allée lui rendre visite. Là où se joue le drame des migrants, c'était il y a 2 ans dans la fameuse jungle de Calais, dans la case de Sofiane, qui se présente comme un peul.
C'est un très long voyage et ce voyage est très difficile parce que je vivais dans des conditions de vie qui sont... C'est pas facile à expliquer parce que moi-même, je suis un homme, mais si je parle de la situation que je vivais, je vais pleurer. Mais je ne veux pas, parce que je ne veux pas me souvenir des mauvaises choses que je vis entre la Turquie et la Grèce. Ouais. J'ai vu tellement de personnes qui sont noyées, tellement de personnes de mort. Je me souviens un jour, j'ai vu une semaine dans un arbre, se cacher de la police. J'avais mon sac à dos, Et dans le sac 2, j'avais que bouteille d'eau et des biscuits. Une semaine, avec le froid, avec tout. J'ai passé une semaine encore. J'ai passé une semaine dans la neige jusqu'à que nous tous, nos jambes étaient enflées, jusqu'à qu'il y a trois qu'on a coupé directement les jambes qu'on a envoyées au pays. Moi, je me suis sauvé parce que mes jambes étaient enflées, juste ça.
M.
Ouais. Il y a beaucoup de choses que je ne veux pas dire.
M comme mythe du retour.
Ces migrants qui ont un visage, qui ont une histoire. Pour dire que l'organisation La Francophonie que vous dirigez, Mickaël Jean, s'implique dans cette crise migratoire, en ayant entendu d'ailleurs cette cicatrice que vous vivez vous-même en tant qu'ancienne réfugiée, ancienne migrante.
Je vous dirais que quand je dis à quel point ce monde a besoin de plus d'humanisme, c'est de pouvoir s'associer totalement à ce qu'il vient de raconter. Et que l'Europe aussi se souvienne qu'elle est passée par là. Moi, venant du Canada, l'expérience que moi j'ai eue à vivre, je n'en parle pas froidement. Pour moi, ce ne sont pas des statistiques, ce ne sont pas des données. C'est une réalité. Je suis passée par là. Et je sais ce qui m'a aidée à me reconstruire. C'est un accueil digne. C'est le fait qu'on ait souhaité tout de suite au Canada régulariser nos situations pour nous permettre d'agir et en pleine citoyenneté. C'est comme ça qu'on peut faire la différence. D'autre part, je me demande toujours, après avoir vécu cela, mais qu'est-ce que cela aurait été de pouvoir aussi rester chez moi ? Ne pas avoir été forcé. Le monde, nous voulons tous rejoindre le monde et découvrir le monde.
Mais Ulysse veut rentrer chez lui.
Mais en même temps, on n'a pas envie d'aller vers le monde parce qu'on y est forcé. Alors nous, la francophonie, ce que nous disons, c'est qu'il faut aussi investir dans la croissance de ces pays.
La francophonie a de grandes oreilles face aux grandes douleurs du monde, mais elle a aussi un grand vent d'espoir aussi en son sein. J'invite les auditeurs à aller voir votre opération Hermione, cette frégate de la liberté qui embarque des jeunes issus des pays de la francophonie. Mais j'aimerais juste terminer sur une image. Je vous ai devant moi depuis presque une heure, Mickaël Jean, et vous avez autour du cou, c'est pas un gris-gris, c'est une écharpe somptueuse, une écharpe afghane. Est-ce que ça a été une alliée dans votre job qui consiste à briser les solitudes ?
Je le crois, oui, parce que, bon, commandant en chef des forces canadiennes, en ma qualité de gouverneur général, j'ai eu aussi à aller là où ces soldats étaient déployés sur des opérations de maintien de la paix, mais aussi sur des fronts extrêmement difficiles, notamment en Afghanistan. Et cette écharpe m'a été offerte par une femme afghane et je l'ai portée souvent aussi dans des circonstances extrêmement douloureuses. J'ai dû présider au rapatriement de plus de 160 soldats canadiens. Et pour moi, ce n'est pas 160, c'est chaque fois. C'est chaque fois où il a fallu parler à ces familles, affronter à la fois leur grande douleur, leur deuil, mais aussi la question terrible. Dites-moi, est-ce qu'on fait vraiment une différence là-bas ? Est-ce que mon fils ou ma fille est mort ou est morte pour quelque chose ? Et affronter aussi la colère d'un frère, d'un jeune soldat mort en Afghanistan. Et je ne pouvais trouver les réponses qu'en étant à l'écoute des populations afghanes elles-mêmes. Donc voilà, si vous soulevez cela, ce châle, c'est ça. C'est ça. C'est en même temps avoir pu rencontrer de ces femmes afghanes qui, comme ma grand-mère, élevait seule des enfants, cousant des vêtements qu'elles vont vendre au marché, pour s'assurer que tous leurs enfants aillent à l'école, filles et garçons. Et c'était extraordinaire, en partageant cela avec ces femmes, de pouvoir se reconnaître. Voilà, donc je...
Donc vous ne me prêterez pas votre écharpe?
Si, bien sûr, parce que cette solidarité, elle se partage.
En sol majeur. @rfi.fr.
Merci Mickaël Jean. Merci de votre belle visite en sol majeur. Et vous souhaitiez que le slammer Grand Corps Malade referme votre en sol majeur.
Oui.
En un mot, pourquoi ?
Parce que d'une part, c'est un garçon que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces jeunes artistes qui aiment le pouvoir et la force des mots, qui aiment la beauté des mots. Et sa dernière chanson, là, Acouphène, elle me rejoint complètement, parce qu'elle est pleine de sonorités. Et à travers ses acouphènes à lui, je retrouve aussi les miens.
Bonjour docteur,
Je viens vous voir parce que je l'ai jamais trop raconté, mais j'ai des bruits chelous dans la tête. Enfin, dans la tête, dans les oreilles, quoi. Ça fait longtemps, en fait, ça arrive d'un seul coup, et puis ça revient assez régulièrement. Et puis c'est des bruits, enfin, comme des trucs que je connais déjà. Et du coup, c'est très bizarre, tout se mélange un peu, c'est... Je sais pas comment dire, j'entends comme des... Par exemple, j'entends Brassens sur un vinyle, chanson pour l'Auvergnat. J'entends l'accent de ma grand-mère quand elle chantait Ramona. J'entends les voix de mes parents, de celles qui rassurent. J'entends ma plume sur un papier, les premières ratures. J'entends Maggie à la télé qui sonne la fin du week-end. J'entends ma mère pour me bercer qui vient chanter Göttingen. J'entends la sérénité, la quiétude et l'harmonie. J'entends mon premier texte qui parle de famille unie. J'entends ma sœur dans sa chambre qui écoutait les Cure. J'entends nos cris d'enfants quand on sortait dans la cour. J'entends la sonnerie du collège qui annonce la fin de l'heure. J'entends toujours beaucoup plus de fou rire que de pleurs. J'entends les portes du métro et la cohue de la ligne 13. J'entends l'accent des clandos qui vendent des frites merguez. J'entends les piliers de bar qui philosophent et théorisent. J'entends le clocher de la mairie qui sonne le temps des cerises. Est-ce que c'est grave, docteur, tous ces bruits dans mon esprit? Est-ce un trop plein de souvenirs et mon cerveau qui réagit? Est-ce que ça doit me faire peur? En fait, je pense que j'ai compris. Tous ces murmures, c'est juste des acouphènes de nostalgie.
En sol majeur avec Facebook, Twitter et puis en podcast sur Pure Radio. Et bien sûr derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10 temps universel, Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve la semaine prochaine avec Herdin Larjam. À la semaine prochaine.